Nous continuons ce matin notre série dans l'évangile de Jean. Le projet de Jean, c'est quoi? Le projet de Jean, c'est de nous montrer la gloire de Jésus, de nous montrer que Jésus, c'est le plus grand. Et pour le moment, je dirais que là où nous en sommes arrivés dans notre lecture de l'évangile de Jean, pour le moment, Jean réussit très bien à nous montrer quelle est la gloire de Jésus. Il nous montre à quel point Jésus dépasse même tout ce que les gens de son époque pouvait attendre et pouvait imaginer. Alors je voudrais vous donner un exemple que j'ai déjà utilisé lors d'un notre culte, mais ça me paraît... J'ai pas trouvé mieux, désolé. Donc, cet exemple, c'est celui de mon Nokia 5110. Je sais pas si vous l'avez eu, celui-là. Ouais, je vois quelques têtes qui confirment. Ce téléphone, on pouvait faire quoi avec ? Téléphoner. Mais en même temps, c'est ce qu'on attendait de lui. Mais on ne pouvait que téléphoner avec ce téléphone. Et maintenant, on a quoi? On a tous ce genre de truc, ou quasiment tous ce genre de truc. Et il faut reconnaître que ce nouveau type de téléphone est bien plus glorieux que notre 5110. Moi, qu'est-ce que je fais avec ce téléphone-là? Ben, ce téléphone, il est plus puissant que mon propre ordinateur de bureau. Mon téléphone, il contient toute ma CD tech. Je peux écouter tous mes CD, je les ai téléchargés dessus. Je peux regarder n'importe quel film que je veuille dessus. Il peut faire office de console de jeu. Vous voyez à quel point il est plus glorieux que le 5110. Aucun doute. Et même, je dirais, on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'avec les nouveaux téléphones, votre nouveau téléphone sera plus performant en termes d'appareil photo que votre appareil photo numérique. Il filmera mieux que votre caméra numérique. Voilà, on peut aller loin comme ça. C'est vraiment la gloire du téléphone portable. Et Jésus, c'est pareil. On ne cesse de le constater au début de l'évangile de Jean. Il est plus glorieux que tout ce à quoi on s'attend. Quelques exemples. Au début, on le constate, Jésus est plus glorieux que Jean, mais c'est normal, Jean est son prédécesseur. Il est décrit comme étant son prédécesseur. Donc pour le moment, rien d'étonnant. Jean a baptisé dans l'eau, et Jésus, lui, il va baptiser dans quoi? Dans le Saint-Esprit. Alors que Jean annonçait le pardon des péchés, Jésus va faire quoi? Il va l'accomplir, le pardon des péchés. Donc supériorité de Jésus par rapport à Jean. Ensuite, chapitre 2, c'est l'histoire des noces de Cana. Les noces de Cana, c'est une histoire de purification. Parce que Jésus utilise les jarres de purification des Juifs, remplis normalement d'eau, il les remplit de vin. Et ce vin préfigure quoi? Ce vin préfigure sa mort par laquelle il va purifier le peuple. Donc, il fait voler en éclats tout ce qu'en quoi les Juifs croyaient. Les jarres de purification, ça purifie personne. Il n'y a que la mort de Jésus qui puisse purifier. Jésus est glorieux par rapport à ces jarres de purification. Ensuite, c'est l'épisode du temple, à la fin du chapitre 2 de l'évangile de Jean. Et là encore, on se rend compte que le temple de Jérusalem, qui était pourtant la gloire de Jérusalem et des Juifs, ce temple de Jérusalem n'est rien à côté de Jésus. C'est Jésus, le seul et unique lieu où on puisse rencontrer Dieu. Ensuite, on arrive au chapitre 3, avec la rencontre avec le fameux Nicodème. Et avec Nicodème, on se rend compte encore de la supériorité de Jésus, en particulier sur le serpent de bronze, si vous vous souvenez. Le peuple d'Israël venait juste de sortir d'Égypte et malheureusement, il s'est rebellé contre son Dieu dans le désert. Et pour le punir, Dieu lui a envoyé des serpents. Les Israélites étaient piqués par les serpents et mouraient. Mais par l'intermédiaire de Moïse, Dieu a donné une solution pour s'en sortir, le fameux serpent de bronze, le serpent d'airain. Et quand les Juifs regardaient ce serpent d'airain après avoir été piqués par les serpents, ils étaient épargnés de la mort. Jésus est le méga serpent d'airain, celui qui le regarde sur la croix, cloué sur la croix, comme les Juifs regardaient le serpent d'airain. Ce n'est même pas qu'il ne meurt pas, c'est qu'il est épargné lors du jugement final. Rien de moins que ça. Jésus est supérieur au serpent d'airain d'Israël dans le désert. Et la dernière fois, alors c'était il y a un mois, je vous l'accorde, mais la dernière fois, on avait commencé le récit de la rencontre avec la femme samaritaine. Et là encore, on avait pu constater la supériorité de Jésus sur tout ce qui était annoncé avant. Il est supérieur au puits de Jacob, ça apparaît très clairement dans le récit. Ce puits qui avait été foré par Jacob, ou que Jacob avait pu boire de l'eau, eh bien, Jésus est supérieur parce que l'eau que donne Jésus désaltère parfaitement. Alors que celui qui boit de l'eau de Jacob aura encore soif. C'est Jésus qui le dit dans le récit avec la Samaritaine, dans son dialogue. Et on voit aussi à quel point Jésus est supérieur à tous les cultes anciens. Que ce soit le culte à Jérusalem ou le culte sur le mont Garizim pour les Samaritains, il n'y a aucun doute, Jésus est supérieur à ça, parce que lui propose un culte en esprit et en vérité. Un culte accessible pour tout le monde, partout dans le monde, juste dans sa tête. On peut rendre un culte à Dieu, grâce à Jésus, supériorité de Jésus sur tout ce qui était annoncé avant. On en est là. On en est là pour le moment dans l'évangile de Jean. Et on va continuer, on va finir le récit du dialogue entre Jésus et la femme samaritaine. Et ce que je vous invite, c'est, vous allez suivre la lecture, c'est Bénédicte qui va nous lire pour nous. Et vous allez essayer de repérer trois nouveaux indices de la gloire supérieure de Jésus. Il va y avoir au moins trois choses surprenantes qu'on va encore apprendre sur Jésus et qui vont nous montrer sa gloire. Et je vais prier avant que nous lisions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, merci pour sa richesse. Nous te prions que ce matin encore, tu puisses nous transformer à l'écoute de ta parole. Montre-nous la gloire de Jésus, afin que nous lui fassions confiance encore plus dans notre vie et que, unis à lui par la foi, eh bien, nous puissions nous approcher de toi et te voir au dernier jour. Merci pour toutes tes promesses. Merci pour tout ce que nous allons encore découvrir aujourd'hui. Amen.
Évangile de Jean, chapitre 4, versets 26 à 54. « Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. » Sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu ?» ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, et si c'était le Christ ?» Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant « Maître, mange donc !» Mais il leur dit « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent donc entre eux « Est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger ?» « Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Vous dites en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien, moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle. Si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. Ici se vérifie le proverbe « Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. » Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont travaillé et vous avez recueilli le fruit de leur labeur. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'avais fait. » Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester, et il passa 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et il disait à la femme, « Nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Après ces 2 jours, Jésus repartit de là pour la Galilée, car il avait déclaré qu'un prophète ne reçoit pas dans son pays l'honneur qui lui est dû. Or, quand il arriva en Galilée, les gens lui firent assez bon accueil, car ils étaient, eux aussi, allés à Jérusalem pendant la fête, et ils avaient vu tous les miracles qu'il y avait faits. Il repassa par Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, à Capernaum vivait un haut fonctionnaire dont le fils était très malade. Quand il apprit que Jésus était revenu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le supplia de venir guérir son fils qui était sur le point de mourir. Jésus lui dit « À moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas ?» Mais le fonctionnaire insistait « Seigneur, viens vite avant que mon petit garçon ne meure. »« Va, lui dit Jésus, rentre chez toi, ton fils est bien portant. » Cet homme crut Jésus sur parole et il repartit chez lui. Sur le chemin du retour, plusieurs de ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui annoncèrent « Ton fils est bien portant !» Il leur demanda à quelle heure son état s'était amélioré. Ils lui répondirent « C'est hier, vers 1 heure de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit « Ton fils est bien portant. » Dès lors, il crut, lui et toute sa famille. Tel est le deuxième signe miraculeux que Jésus accomplit en Galilée après son retour de Judée.
Avec mes parents, on a pris l'habitude de s'appeler une fois par semaine, en moyenne, histoire d'avoir des nouvelles. Et quand je les appelle plus souvent, il faut bien que j'admette que c'est parce que j'ai un conseil ou j'ai quelque chose à leur demander de particulier. J'ai un problème à résoudre quand je les appelle plus souvent. Et je voulais vous demander, à vous aussi, si ça ne vous arrive pas, parfois, s'il n'y a pas des gens que vous appelez que quand vous avez un service à leur demander. Est-ce que vous avez ce type de personnes dans votre agenda, dans votre liste de numéros ? Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que les deux épisodes que nous venons de lire, l'épisode de la femme samaritaine et l'épisode du haut fonctionnaire qui vient pour la guérison de son fils, ces deux épisodes, ils ont quelque chose en commun, et c'est cela. Pourquoi appelle-t-on Jésus ? Comment est-ce que nous considérons Jésus ? Est-ce qu'on considère Jésus de façon utilitariste, comme quelqu'un qui peut nous apporter quelque chose ? Ou au contraire, est-ce que nous considérons Jésus parce qu'on ne peut pas faire autrement ? Il s'impose à nous, que nous le voulions ou non. Autrement dit, est-ce qu'il nous faut des miracles pour croire ? Ou est-ce que nous le croyons sur parole ? C'est un peu la problématique qui se pose dans ces deux rencontres avec les Samaritains d'un côté et avec le haut fonctionnaire de l'autre. C'est l'enjeu du récit ce matin. Et on commence avec ce premier point, croire sur parole. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en Samarie, Jésus va n'accomplir aucun miracle. Il ne fait rien. Il ne fait que parler en Samarie. Et à cette femme samaritaine, en lui parlant, il lui aide à y voir clair dans la vie. Alors, ce n'est pas rien d'aider quelqu'un à y voir clair dans sa vie. C'est ce que Jésus fait. Il montre que son problème, c'est qu'elle essaye de combler le manque qu'elle a dans sa vie en multipliant les hommes. C'est ce qu'elle fait, cette femme. Elle a, je vous le rappelle, on le voit avant dans le récit, elle a été mariée 5 fois, et là, elle vit avec un 6e homme avec lequel elle n'est pas mariée. Et ça, ça la rend pas heureuse, malgré tout. Et Jésus, pour étancher cette soif de toujours plus, Jésus lui propose une eau vive. Elle est en mal de relation, Jésus lui propose la relation suprême avec Dieu comme Père. Et comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que Jésus peut proposer cette relation avec Dieu comme Père ? Eh bien, c'est là qu'on voit le premier rayon de la gloire de Jésus dans ce passage. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Jésus le dit lui-même, verset 26, « Je suis le Messie, moi qui te parle. » C'est ce premier indice dans notre passage sur l'identité de Jésus. Et c'est un indice qui nous révèle la gloire de Jésus, la gloire qui est la sienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est un peu mystérieux quand même pour nous, aujourd'hui, avec 2000 ans d'écart. Qu'est-ce que ça veut dire ? « Je suis le Messie, moi qui te parle. » Alors, Messie, c'est un mot hébreu. En grec, est-ce que vous savez comment on dit Messie ? Vous le savez ? On dit le Christ. Messie et Christ, c'est exactement le même mot. L'un en hébreu, l'autre en grec. Est-ce que quelqu'un veut tenter une traduction des deux ? Qu'est-ce que ça veut dire, Messie ? Qu'est-ce que ça veut dire, le Christ ? Loin, exactement, loin. Alors, loin... C'est le mot « onction » qui est derrière, c'est-à-dire on a versé de l'huile sur la tête de quelqu'un, quand on fait ça, c'est une onction. C'est comme ça qu'on désignait les rois, les prophètes et les prêtres à l'époque, dans l'Ancien Testament. Alors Jésus, il n'a pas reçu de l'huile sur la tête au sens fort, mais Jésus a été désigné par Dieu. Il est le Messie, il est le Sauveur que Dieu avait annoncé dans les temps anciens à son peuple. Et donc il est le Messie au sens fort, il est le Christ loin au sens fort, venu délivrer son peuple. Alors vous comprenez que c'est bien quelque chose de glorieux qui est là derrière quand Jésus dit « Je suis le Messie, moi qui te parle ». Et ça, c'est marrant qu'il dise ça parce qu'il le dit à une Samaritaine, c'est-à-dire une étrangère, quelqu'un qui n'appartient pas au peuple juif, alors qu'aux Juifs, il ne le dira jamais. Jusque dans son procès, où on lui demandera directement « Mais qui, es-tu vraiment le Christ ?» Mais pourquoi ne le dira-t-il pas au peuple juif, à son propre peuple ? Parce que c'était devenu tellement politisé l'attente du Messie. Ils attendaient un libérateur, quelqu'un qui allait prendre les armes pour mettre les Romains à la porte. Et donc, pour ne pas embrouiller les pistes, il n'a jamais dit ouvertement à son peuple qu'il était le Messie, ou il le dira en tout cas dans son procès. Mais il ne l'a pas dit de façon aussi claire qu'ici, à la femme samaritaine, cette étrangère. Oui, je suis le Messie, moi qui te parle. » C'est le premier indice, donc, de la gloire de Jésus. Imaginez, le Fils de Dieu, il a osé faire quoi ? Il a osé aller jusqu'à la croix, jusqu'à mourir pour te sauver, pour me sauver, pour nous sauver. Il est allé jusqu'à la croix pour ça. Et j'en frémis toujours un peu parce que pendant ces vacances, j'ai eu une écharde dans le doigt et j'ai dû me l'enlever avec... J'ai dû planter une petite aiguille pour me l'enlever et je ne vous raconte pas comment ça fait hyper mal. Alors, quand je pense à ça, j'ose même pas imaginer ce que Christ, le Messie, a osé endurer pour nous sur la croix. C'est réellement là l'indice glorieux de notre passage. Il est le Messie, le Sauveur annoncé pour nous libérer. Alors sur cette déclaration, je suis le Messie, moi qui te parle, les disciples de Jésus reviennent de la ville où ils étaient allés acheter de quoi manger. Alors, ils auraient eu plein de raisons pour s'offusquer et interrompre le dialogue entre Jésus et la femme samaritaine. Ils auraient eu des raisons politiques, des raisons religieuses, des raisons ethniques, parce qu'à l'époque, un rabbi, un homme rabbi juif ne pouvait pas parler à une femme samaritaine. C'était inenvisageable. Inenvisageable. Mais les disciples ne disent rien face à l'incongruité de cette situation. Et la femme se sent accueillie par les disciples, finalement, de la même façon qu'elle s'est sentie accueillie par Jésus. Et ça, ça compte, très certainement, dans le cheminement de cette femme samaritaine. Et ça, c'est le deuxième rayon de la gloire de Jésus dans ce passage. Ce rayon de gloire, c'est quoi ? C'est que tout le monde compte avec Jésus. Et c'est le cas pour toi aussi. Quel que soit ton passé, quelles que soient tes fautes, quels que soient tes péchés, tu comptes aux yeux de Dieu. Avec Jésus, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni riche, ni pauvre, ni blanc, ni noir. Il n'y a que des êtres humains que Dieu aime et qu'il appelle à lui. Et là, je me suis dit qu'en tant qu'Église, on avait là aussi un défi. Ce défi, c'est de refléter l'accueil inconditionnel qui a été celui de Jésus et de ses disciples dans cet épisode. Refléter l'accueil inconditionnel de Jésus. Alors, je voudrais vous poser une question. Réfléchissez à ça. Qui est-ce que vous n'aimeriez pas voir débarquer dans l'Église ici ce matin, là ? Si en claquant du doigt, il y a quelqu'un qui débarque, et vous vous retournez et vous vous dites « Ah non, pas lui ou pas elle ». Qui est-ce que vous imaginez quand on dit ça ? Imaginez que ça soit un punk qui débarque ce matin dans l'église. Imaginez que ça soit quelqu'un ouvertement de la communauté LGBT, par exemple. Ou un SDF qui se sente mauvais. Imaginez un SDF qui rentre, qui s'assoit, et ça commence à sentir mauvais dans l'église. Ben, préparons-nous. Préparons-nous à les accueillir. L'Évangile est pour eux, comme elle est pour nous. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans le récit ? La femme samaritaine, elle profite de l'arrivée des disciples pour s'éclipser. Elle rentre à son village. Et qu'est-ce qu'elle fait, arrivée à son village ? Elle témoigne. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Elle, qui venait puiser de l'eau en plein cagnard, à 3h de l'après-midi, pour éviter de croiser les gens du village qui devaient la stigmatiser, elle ose, après sa rencontre avec Jésus, elle rentre dans son village et elle dit à tout le monde, « Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et si c'était le Christ ? Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son témoignage est efficace. Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Et un peu plus loin, verset 40, « Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester » et il passa 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et il disait à la femme, « Nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons vraiment qu'il est le sauveur du monde. » C'est un réveil. C'est un réveil dans ce village de Samarie. Je pense que un réveil qui ferait pâlir d'envie la moindre église évangélique aujourd'hui. Dans cette ville, les gens viennent auprès de Jésus et ils le croient sur parole, sans qu'ils fassent rien du tout. À l'occasion du repas qu'il prend avec ses disciples, juste à ce moment-là, Jésus va expliquer ce qui est en train de se passer. Jésus commence en refusant de manger. Alors ses disciples sont un peu surpris parce qu'ils étaient justement allés chercher de la nourriture. Et ils se demandent si quelqu'un ne lui aurait pas amené de la nourriture pendant qu'il n'était pas là. Et voilà la réponse de Jésus. Ce n'est pas le cas. J'ai pour me nourrir, verset 32, un aliment que vous ne connaissez pas. J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. Ce qui me nourrit, verset 34, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Autrement dit, dans son dialogue avec la femme samaritaine, Jésus était en train de manger. Il était en train d'accomplir la volonté du Père qu'il avait envoyé. Et dans ce dialogue avec cette femme samaritaine, Jésus éprouvait plus de satisfaction que s'il avait mangé n'importe lequel des aliments. Ça nous rappelle peut-être un peu ce fameux verset du Deutéronome. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus, étant lui-même la parole de Dieu, se nourrit finalement de lui-même et de ses échanges avec la Samaritaine. Il se délecte en accomplissant la volonté de Dieu. Et il explique ensuite, il donne deux mots pour expliquer quelle est la volonté de Dieu ici. Semer et moissonner. Et Jésus, ici, il a fait les deux avec la femme samaritaine. Il a semé la parole de Dieu et il a moissonné. Il a récolté une conversion. Il a récolté une femme qui a changé de vie et qui croit en lui, en sa parole. Et la femme samaritaine a aussi fait les deux dans cet épisode. Elle a semé dans son village et elle a récolté toute une moisson de gens qui ont cru en Jésus. Et les disciples, pareil, les disciples qui n'ont rien fait, eux par contre n'ont pas semé ici, mais ils vont récolter avec Jésus et avec la femme samaritaine, ils vont récolter toute une moisson. C'est les hommes et les femmes qui se sont tournés vers Jésus dans cet épisode-là, en Samarie. Réveil dans cette ville. Question. Est-ce que tu fais comme les Samaritains de cet épisode? Est-ce que tu crois Jésus sur parole? Est-ce que tu crois Jésus sur parole? Est-ce que tu crois que Jésus peut t'accorder cette eau vive qui va étancher ta soif pour toujours? Je voudrais prendre un exemple. Je voudrais vous demander s'il y a des adeptes de jeux vidéo parmi nous. Qui honnêtement, joue à des jeux vidéo de temps en temps? Moi, je m'inclus dedans. OK? OK. Bon, alors, je ne parle pas à beaucoup, mais j'espère que vous allez comprendre ce que l'on peut vivre. Je voudrais continuer à vous poser des questions à ceux qui jouent à des jeux vidéo. Qu'est-ce que vous recherchez en jouant à des jeux vidéo? Il y a plusieurs choses, hein, mais je vous écoute si vous avez des pistes. Quelles sont vos attentes quand vous prenez votre console ou votre téléphone portable? Vous attendez quoi, juste? Pardon?
Un bon score.
Vous attendez de gagner. Ouais, la gagne, ça c'est quelque chose. Hein. Ensuite? C'est tout?
La performance,
ouais, ça revient un peu au même, gagner, la performance. Tu veux dire peut-être le progrès? D'une fois sur l'autre, on progresse, ouais, ok. Quoi d'autre? En fait, il n'y a que des winners, là, ici. Il n'y a personne qui joue juste pour
se détendre, s'amuser,
gagner, progresser, passer le temps, ok. Est-ce que certains d'entre vous jouent par manque de reconnaissance? C'est-à-dire, dans la société où on est noyé aujourd'hui, où on n'est quasiment plus rien, est-ce que vous jouez pour gagner et avoir l'impression d'être quelqu'un? Ouais, j'ai gagné! Je suis quelqu'un, finalement, je ne suis pas si nul que ça. Est-ce que ça vous arrive de jouer pour ça? En tout cas, est-ce que vous voyez toutes les soifs qui peuvent être les nôtres différemment quand on joue à des jeux vidéo? Et ça marche pour quasiment tout. On peut jouer aux jeux de société pour exactement les mêmes raisons. Parce qu'on ne sait pas quoi faire de notre temps, pour s'amuser, pour se détendre, pour gagner, pour progresser, pour avoir l'impression qu'on sait faire quelque chose et qu'on peut y arriver. Ben sachez que toutes ces soifs qu'on a, Jésus les comble véritablement. Cette soif d'amusement, de progrès, cette soif de gagner aussi, il est notre victoire. Cette soif d'être quelqu'un. En Christ, on est quelqu'un, on est adopté, on est aimé par Dieu. Il nous adopte comme son fils ou sa fille. Et est-ce que tu savais qu'au contraire, quand tu joues aux jeux vidéo, tout ce que tu peux ressentir n'est que, en fait, très passager? Moi, ce que j'observe en jouant, quand on joue à la maison, j'observe pas longtemps l'amusement. J'observe très très vite la frustration, la colère de perdre. J'observe quand on dit à les enfants plus que 5 minutes, et quand les 5 minutes sont arrivées et qu'il faut arrêter, c'est encore « Oh non, encore 5 minutes, sinon je vais perdre !» Il faut que je gagne à tout prix. Mais qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Bon, là, je parle à mes enfants, pardon. J'arrête. Ok. À travers là où je voulais en venir, c'est qu'à travers le jeu vidéo, notre soif n'est pas étanchée. Alors qu'elle l'est à travers Jésus-Christ, cette soif. Cette soif de plus. La vie comblée, c'est en Christ et pas en autre chose. Et alors, et pour vous, les autres qui n'avez pas levé le doigt et qui, je l'espère, vivent déjà cela avec Jésus-Christ, j'ai une autre question pour vous, parce que notre nourriture devrait être la même que celle de Jésus. Notre nourriture devrait être de faire la volonté de Dieu et de semer et de moissonner pour son royaume, n'est-ce pas? Et on constate en ce moment, avec le coronavirus, depuis que l'épidémie est là, que ça devient très difficile, ou beaucoup plus difficile qu'avant, de semer et de moissonner. Avant, moi, ça fait 2 ans que je suis là, et vous êtes une église, vous êtes, parce que vous l'étiez bien avant que je suis arrivé, une église hyper vivante. Pendant les cultes 3D, l'église était pleine, et il y avait une proportion de non-croyants qui était impressionnante, certaines fois. Et qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? Eh bien, on semait et on moissonnait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Là, ok, aujourd'hui, c'est les vacances, on va dire, on est 40, mais... Et à la rentrée, comment est-ce qu'on va continuer à faire s'il faut encore la distanciation sociale, le masque? Comment inviter nos amis? À quoi vous ressemblez nos cultes 3D? Sont-ils même pertinents dans ces situations-là? Ces cultes 3D, ces parcours alpha, ces repas communautaires qui faisaient la force de notre communauté, que deviennent-ils avec l'épidémie? Que deviennent-ils? Très certainement que pour semer et moissonner, il nous faudra changer de stratégie. Changer de stratégie et proposer à nos amis de lire la Bible en un à un. Parce qu'on peut toujours garder le masque avec nos amis pour lire la Bible en un à un, ça reste toujours du domaine du possible. On peut toujours témoigner à nos proches de cette façon-là. En tout cas, on est preneur de toutes vos idées, hein, de toutes vos idées pour changer notre stratégie pour semer et moissonner. Et je reste convaincu que la moisson est grande, qu'il y a des cœurs, des âmes ici à Pau qui sont assoiffées, parce qu'ils ne savent plus vers qui se tourner pour avoir leur cœur comblé. Et malgré tout, je reste aussi convaincu que le coronavirus n'arrêtera pas la propagation de la parole de Dieu. Mais il reste à savoir comment nous allons nous emparer de ces nouvelles données. Ça, c'était croire sur parole. Croire sur parole, tel que les Samaritains l'ont fait, et... On passe maintenant à ce deuxième épisode, mais qui nous renvoie à la même question. Parce que cet homme qui vient trouver Jésus ensuite, c'est plus la question de croire sur parole, c'est la question de voir pour croire qui est posée. Est-ce qu'on a besoin de miracles pour croire en Jésus? Est-ce qu'on a besoin de voir quelque chose avant? Alors, après avoir passé quelques jours en Samarie, Jésus finit par s'en aller. Il décide d'aller en Galilée. Et là, j'ai été très surpris par le texte, parce que le texte dit qu'il s'en va, parce qu'il sait qu'il sera moins bien reçu ailleurs. Je me suis dit, oula, il y a un problème là, parce qu'en général, quand on quitte un endroit où tout se passe bien, c'est pas pour aller sciemment vers un endroit où ça va mal se passer. Mais Jésus, il est venu pour ça. Hein. Il est venu pour donner sa vie pour son peuple. Il est venu pour donner sa vie pour nous. Et il sait comment ça va se passer. Son peuple ne va pas le croire, va l'accuser, va le condamner et va le faire mourir. Et c'est la seule solution pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Et il y a ce fameux verset 44 qui est comme une ombre au tableau, ce verset qui est entré dans le langage courant. Nul n'est prophète en son pays. Un prophète ne reçoit pas l'honneur qui lui est dû dans son pays. Jésus a peut-être été apprécié en Samarie, là où personne ne l'attendait, là où personne ne le connaissait, mais il va être rejeté là où, au contraire, on aurait dû l'attendre. Mais bon, finalement, il est presque surpris, Jésus, L'accueil des Galiléens n'est pas si mauvais que cela. Et pourquoi ? Ils étaient à Jérusalem pendant les fêtes, verset 45, et ils avaient vu les miracles que Jésus avait faits. Donc, s'ils réservent un bon accueil à Jésus, c'est parce qu'ils sont intéressés par ces miracles. Ils ont vu, ils ont besoin de voir pour croire. Et ça ne rate pas, il y a cet homme qui vient, il a fait 30 kilomètres pour s'approcher de Jésus quand même. 30 kilomètres à pied. Haut fonctionnaire, très certainement, du roi Hérode. Son fils est malade et il souhaite absolument que Jésus l'accompagne pour guérir son fils. Et Jésus ne se fait pas avoir. Il dit, à moins de voir des signes miraculeux, vous ne croirez donc pas ? Il lui renvoie vers ça. Voir pour croire. Est-ce que vous arriverez à croire sans avoir vu ? Et le fonctionnaire insiste, viens, viens vite, avant que mon fils ne meure. Mais Jésus n'ira pas. Va, rentre chez toi, ton fils est bien portant. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se débloque dans l'esprit du haut fonctionnaire. Verset 50, cet homme crut Jésus sur parole. Alors qu'il était venu voir pour croire, finalement il se retrouve dans la situation numéro 1. Il se met à croire alors qu'il n'a rien vu encore. Il n'a strictement rien vu. Il obéit à Jésus et il rentre chez lui. Et sur le chemin, il rencontre quelqu'un qui vient lui dire la bonne nouvelle. Ton fils est vivant. Et en recoupant les données, il se rend compte qu'il est vivant depuis le moment où Jésus a eu ses paroles. Va, ton fils est bien portant. Résultat, pour cet homme, il se met à croire, lui et toute sa famille. Sa foi en est encouragée. Au début, il était venu intéressé par Jésus, le faiseur de miracles, et il en ressort avec Jésus, l'homme. Jésus, l'homme, Dieu. Et il place toute sa confiance en lui. Alors j'ai été bluffé par ce qu'a fait Jésus dans ce récit, parce que il guérit l'enfant alors même que le père ne s'approche pas avec de bonnes motivations. Le père ne veut que la guérison et ne s'intéresse pas à qui est vraiment Jésus. Mais Jésus, lui, lui fait grâce. Et la puissance que Jésus démontre est supérieure à la puissance que pensait le père. Et là, on a ici le troisième indice de la gloire de Jésus. Jésus dont la puissance est telle qu'il n'a même pas besoin de se déplacer pour accomplir un miracle. Et c'est encourageant pour nous aussi de savoir cela. Alors, y a-t-il des gens que vous appelez que quand vous avez besoin d'eux ? Et comment est-ce que vous appelez Jésus ? Est-ce que nous n'appelons Jésus que quand nous avons besoin de lui ? En gros, si c'est en lettré, est-ce qu'il ne nous arrive pas d'avoir dans nos prières une vision utilitariste de Jésus ? Est-ce qu'on fait appel à Jésus que quand on a besoin de lui, comme un distributeur automatique de bénédictions, comme un pompier, par exemple ? Même si ces bénédictions ne sont ni automatiques ni méritées, Jésus fait pourtant bien plus parfois que ce que nous lui demandons ou que ce que nous pouvons penser. Il peut nous faire grâce et il peut nous toucher au plus profond de nous-mêmes malgré nos mauvaises motivations. Et à travers ce récit, on est invité à revenir à qui est Jésus, à sa personne même. Il est le Dieu vivant qui nous sauve, il est le Dieu vivant qui nous appelle. Il est le Sauveur dont on a besoin chaque jour pour avancer. On voudrait tellement voir des choses merveilleuses pour croire après. En fait, avec Jésus, avec Dieu, ça marche même dans l'autre sens. Jésus dira un peu plus loin dans l'évangile de Jean à Marthe, son ami, il lui dira « Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Mais c'est dans ce sens-là. Pour voir la gloire de Dieu, nous sommes appelés à croire avant. Alors que trop souvent dans notre tête d'hommes et de femmes du 21e siècle, avec toute la technologie, on voudrait faire le contraire. On voudrait voir pour croire. Et pourtant, Jésus nous appelle au contraire. Si tu veux voir, crois d'abord. Et crois-moi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous avons vu ce matin. Si nous avons placé notre confiance en Jésus, nous avons vu au moins 3 indices de sa gloire ensemble. Nous avons vu qu'il est le Messie, le Sauveur. Il a donné sa vie à notre place sur la croix pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Nous avons vu qu'il accueille tout le monde, quelles que soient ses fautes. Et nous avons vu que sa puissance dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Et je voudrais maintenant vous inviter à la prière. Je vais prier pour vous, pour nous, pour moi, pour tout ce que nous venons de voir dans ce récit, pour ces 3 rayons de gloire de Jésus. Prions. Notre Dieu, notre Père, ce matin ensemble, nous te prions que nous puissions faire confiance à Jésus. Nous te prions que nous n'attendions pas de voir pour croire, mais au contraire que nous puissions le croire sur parole. Et merci pour cette promesse que nous verrons sa gloire, que nous sortirons grandis, renforcés, transformés. Notre prière aussi, c'est de sortir avec le désir de suivre Jésus toujours plus, de semer et de moissonner pour lui. Nous te prions que tu balayes nos doutes et que tu nous donnes des convictions et que nous puissions tenir ferme jusqu'au jour glorieux où nous te verrons face à face. Merci pour ce récit du dialogue avec la femme samaritaine et avec ce haut fonctionnaire. Merci parce que ces 2 récits nous encouragent à croire, à placer toute notre confiance en Jésus. Et c'est ce que nous voulons faire. Amen.